Salut, c'est Steven Jambot de l'Atelier des médias. Mardi, sur RFI, on a diffusé beaucoup de musique en lieu et place de nos journaux et magazines. En cause, l'annonce par Emmanuel Macron de la suppression de la contribution à l'audiovisuel public, aussi appelée redevance. Un impôt de 138 euros par an que versent les contribuables pour leurs médias publics. Le président dit vouloir ainsi rendre du pouvoir d'achat aux Français.
On dit qu'on va rendre du pouvoir d'achat aux Français tout en disant qu'on va compenser cette suppression de la redevance dans le budget de l'État, donc ce sera dans les impôts des gens, donc on prend dans la poche gauche ce qu'on a rendu dans la poche droite.
La suppression de cet impôt impliquerait de trouver 3,7 milliards d'euros annuels pour financer RFI, France 24, MCD, Radio France et France Télévisions ou encore l'INA. L'État promet de compenser ce manque à gagner, mais rien n'a pour l'instant été annoncé sur le financement futur de ces médias. Qu'il soit nécessaire de réformer la contribution à l'audiovisuel public, à peu près tout le monde est d'accord, d'autant que cet impôt se base sur le fait d'avoir une télévision ou pas en 2022. Bref. Julia Cagé et la Fondation Jean Jaurès proposent un impôt progressif en fonction des revenus, comme cela se fait dans les pays nordiques. Le gain de pouvoir d'achat serait plus juste pour la majorité des contribuables, si tant est que c'est du pouvoir d'achat que recherche ce gouvernement. Alors que certaines puissances font de l'information une arme de guerre, il est très important qu'une offre de médias de qualité soit accessible gratuitement pour toutes et tous. Ce rôle, c'est celui qui fait se lever chaque matin, parfois très tôt, les salariés de l'audiovisuel. Audiovisuel public. Vous écoutez l'Atelier des médias de RFI, radio française de service public international. Pendant une vingtaine de minutes, nous allons nous pencher sur une formation en ligne conçue par l'agence France Presse. Son objectif, permettre aux journalistes de parfaire leurs compétences en matière d'investigation numérique et de lutte contre la désinformation. Pour en parler, je me suis rendu mardi au siège de l'AFP, place de la Bourse à Paris. J'avais rendez-vous avec Grégoire Lemarchand, rédacteur en chef de l'investigation numérique à l'AFP, et Sophie Nicholson, rédactrice en chef adjointe. Bonjour Grégoire Lemarchand.
Bonjour Steven.
Et bonjour Sophie Nicholson.
Bonjour Steven.
La première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, c'est pourquoi l'AFP décide maintenant, en 2022, de créer ce module de formation en ligne ?
L'AFP, en fait, depuis 2017, elle a créé un service qu'on appelle l'investigation numérique. Les gens connaissent plus sous le nom de fact-checking, mais ça va un peu plus loin que le fact-checking. Un réseau de journalistes à travers le monde. Il y a aujourd'hui à peu près 130 personnes qui se sont spécialisées dans la vérification d'informations et dans la lutte contre la désinformation. Et donc, dans ces 5 ans, on a bâti une expertise dont on est évidemment assez fier et dont on a envie de faire profiter des journalistes, des étudiants en journalisme, tous les gens qui sont appelés à lutter contre la désinformation au quotidien. C'est pas qu'on soit plus beau ou plus fort que les autres, mais c'est vrai qu'on a, nous, cette particularité d'être présents en France, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique francophone, anglophone, en Asie, en Australie, à peu près partout. Et donc, cette somme d'expertise, de connaissances, de la spécificité de la désinformation sur certains sujets, la maîtrise des différentes plateformes sur lesquelles il peut y avoir de l'information, nous a conduit à se dire qu'il y avait sans doute quelque chose à faire parce que dans le même temps, on avait aussi beaucoup de demandes de confrères, de rédactions qui se disaient « c'est pas mal du tout ce que fait l'AFP, est-ce qu'on pourrait en profiter aussi ?»
Sophie Nicholson, cette formation montre qu'Internet est un terrain d'investigation à part entière pour lequel il faut maîtriser un certain nombre de savoir-faire.
Oui, effectivement. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire des recherches sur Internet, n'importe qui peut trouver des images sur Internet ou de l'information et partager de l'information. Malheureusement, ça devient de plus en plus compliqué de trouver des informations, d'être sûr de la vérité de l'information qu'on trouve. Il y a des techniques, il y a des outils qui sont gratuits, qui sont assez faciles à utiliser, qu'on souhaite partager avec plus de journalistes. Parce qu'on se rend compte, en fait, qu'on a fait plein de formations avec des journalistes chez nous, avec des étudiants en journalisme aussi, et que même les jeunes qui connaissent super bien les réseaux et Internet, ils sont pas forcément conscients du fait qu'il y a le risque de partager quelque chose qui n'a pas été vérifié à fond. Et c'est un peu des techniques de journalisme pour aujourd'hui, de la manière de faire le journalisme sur Internet, en ligne.
Grégoire Lemarchand, reparlons un petit peu de ce réseau AFP Factuel. 130 journalistes dans 85 pays. Donc, comment est-ce qu'on met sur pied une telle équipe et comment est-ce qu'on réussit à la faire travailler de concert ?
Alors, je corrige juste, c'est dans une trentaine de pays, couvrant 85 pays. Voilà, il faut qu'on soit rigoureux quand on parle de vérification d'informations. Bien, on a la chance, nous, à l'AFP, d'avoir depuis très longtemps, parce qu'on est une agence de presse, des bureaux à l'étranger, une présence à l'étranger. Donc, on sait comment ça fonctionne. Donc, on a apporté des nouvelles compétences dans ces bureaux, en recrutant donc des journalistes spécialisés dans la vérification des informations, dans le fact-checking, et évidemment qui ont une connaissance aiguë des réseaux sociaux. Et c'est notre rôle, à Sophie, à moi-même, de mettre tout ça en musique. C'est vrai que c'est pas tous les jours facile, parce que la désinformation, elle est plurielle, elle est parfois dans le sens, parfois elle est très anodine, mais très partagée. Elle est parfois peut-être moins partagée, mais elle peut avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques dans la vie réelle. Elle est aussi sans frontières dans le sens où on l'a vu sur le Covid, à la fois quand la pandémie est arrivée et devenue mondiale, et évidemment quand on a parlé des vaccins, elle voyage d'un pays à un autre. Donc effectivement, faut mettre tout ça en musique, c'est-à-dire avoir des règles, évidemment des règles communes à l'ensemble de nos journalistes. C'est ce qu'on fait, mais effectivement d'adapter en fonction des pays, en fonction de la culture, etc. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez une infox qui va circuler sur quelque chose qui se passe aux États-Unis, on a des fact-checkers aux États-Unis qui vont s'adresser à une audience, à des gens qui sont américains. Donc, on va l'écrire d'une certaine façon. Mais si vous avez la même fausse information qui circule en Asie ou en Afrique, les gens ne sont pas des spécialistes, je ne sais pas, de la vie politique américaine, etc. Donc, il faut l'écrire peut-être un peu différemment, avec plus de contexte, plus d'explications. Il faut vraiment s'adapter. Et c'est aussi les sujets, c'est-à-dire qu'un sujet qui apparaîtra en tout cas comme un canular en France, est entendu comme tel et pris au 3e, 4e, 15e degré, peut dans d'autres pays être pris au 1er degré. Donc c'est aussi notre rôle de se dire, pour un public des internautes français, ça n'a pas de sens d'écrire dessus. En revanche, pour un public dans d'autres pays, je ne sais pas, en Afrique du Nord, en Afrique francophone, en Asie, etc., il faut le faire. Donc ce que je veux dire, il faut vraiment à chaque fois s'adapter au contexte local. C'est ça le défi, c'est ça qui est important, parce que, encore une fois, voilà, la désinformation, elle prend plein de formes différentes, elle ne circule pas sur les mêmes réseaux sociaux, elle ne circule pas avec la même intensité. Et si on prend par exemple l'Afrique, et c'est une des difficultés qu'on a, il y a énormément de choses sur WhatsApp. Donc il faut aussi apprendre à monitorer WhatsApp, ce qui n'est pas simple, par exemple.
Parce que c'est un réseau qui est fermé et où il n'y a pas des sources publiques et où les conversations ne sont pas ouvertes au grand public.
Oui, c'est effectivement un réseau fermé, puis c'est un réseau crypté. C'est-à-dire que c'est au même titre qu'une conversation téléphonique banale, vous n'avez pas à vous mettre au milieu. En revanche, il y a des groupes, il y a des gens que vous pouvez contacter, il faut essayer de récolter des infos sur WhatsApp, mais ça vaut pour d'autres conversations qui peuvent avoir lieu sur Facebook Messenger, par exemple.
J'invite les auditeurs de l'Atelier des médias à réécouter l'émission que j'avais fait l'année dernière sur la vérification des informations en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, où je recevais Monique Ngomayag, journaliste camerounaise qui travaille donc pour l'AF Actuel depuis Dakar. Venons-en à ces modules de formation pour les journalistes et étudiants en journalisme. Cette plateforme donc que l'on trouve sur digitalcourses.afp.com. Sophie Nicholson, comment fonctionne cette plateforme ? À quoi elle ressemble ?
Juste pour commencer, je voulais juste préciser, ça c'est l'adresse, l'URL du plateforme digitalcourses.afp.com. Pour la plateforme en anglais, on a sur le site, on peut trouver la plateforme en français, mais sinon il y a un URL fr.digitalcourses.afp.com et ça c'est directement sur le site en français pour les gens qui parlent français, bien sûr.
Alors donc comment ça se passe ? Il faut s'inscrire pour pouvoir accéder à ces modules ?
Oui, donc dans un premier temps, il faut s'inscrire. La plateforme est ouverte à tous les journalistes et étudiants en journalisme dans le monde. Donc, il faut simplement aller sur le site et créer un compte. C'est très court, c'est très simple de faire ça. Il faut mettre son mail, il faut dire si on est journaliste ou étudiant en journalisme et mettre aussi le pays où on se situe. Et sinon, tout de suite après, on a un compte et puis on a le choix entre trois niveaux. En fait, on a mis les cours. Chaque cours dure à peu près une heure. Je vais dire à peu près, parce que vraiment, ça dépend de la personne qui suit le cours. Il y a des gens qui sont déjà un peu formés ou qui sont habitués de vérifier des choses en ligne, qui vont aller tout de suite sur un niveau un peu supérieur, parce qu'il y a trois niveaux. Il y a le plus simple, il y a intermédiaire et puis le plus avancé. Et dans le plus simple, on a mis des cours sur les techniques de recherche en ligne. On a mis quelque chose qui est très important vraiment pour nous, pour tous les journalistes, qui est sur comment se protéger en ligne. Donc, c'est un cours également d'à peu près une heure, mais où on suit des étapes pour que toutes les informations sur la personne soient bien un peu plus cachées. On est un peu plus conscient de ce qu'on a mis sur nous-mêmes en ligne, parce que pour les journalistes, évidemment, c'est hyper important d'être conscient de ça, que les gens... Que quand on est en train de faire un reportage, qu'il y a peut-être quelqu'un qui va venir faire des recherches sur nous, et si on a fait un tweet un peu ridicule dans le passé, il faut être conscient du fait que ça peut être retrouvé et ça peut venir nuire à ta réputation, par exemple.
C'est ça, la notion de cyberharcèlement. Eh bien, il y a une montée en puissance du questionnement et donc des savoir-faire, de la façon dont les journalistes doivent s'adapter pour ne pas se retrouver, eux, la cible de cyberharcèlement.
Bah, tout à fait. Et c'est surtout de ne pas oublier que c'est une première chose pour nous dans nos équipes, c'est de rappeler les gens que nous, on va faire des recherches sur les gens qui vont travailler sur nous, juste pour leur montrer qu'est-ce qui est vu par le monde. Rien n'est caché, tout ce qu'on fait en ligne, c'est public. Même si on pense que c'est dans un groupe privé, ça reste pas très privé, ça va être très vite partagé et aller beaucoup plus loin.
C'est souvent un exercice que l'on fait en formation entre journalistes, justement, d'aller sur un moteur de recherche et de taper son prénom et son nom pour voir ce qui apparaît sur Internet à notre sujet. Et ça, n'importe quel auditeur peut le faire. On apprend parfois des choses en allant creuser un petit peu dans les pages 2, 3, 4, 5, 6 des résultats de recherche sans se cantonner uniquement à la première page. Grégoire Lemarchand, l'intitulé de cette formation, sur la première page donc de la plateforme, il est écrit « Comment devenir un pro de l'investigation numérique ». C'est un petit peu une boutade ou c'est vraiment la conviction et votre objectif, votre ambition ?
Non, c'est pas une boutade, ça peut paraître un peu prétentieux, mais c'est vraiment l'idée de se dire, au terme de ces 10 modules, et sachant aussi que l'idée, ce programme, il n'est pas figé, c'est-à-dire que nos modules, si évidemment il y a besoin, on va les actualiser, puis on va en rajouter d'autres, voilà, parce que les usages numériques et les usages du journalisme numérique vont évidemment changer, être à nouveau bouleversés dans les années à venir. Mais c'est l'idée de se dire, si vous passez ces 10 modules, ces 10 étapes, à la fin, vous avez des bases extrêmement solides. Alors évidemment, il faut pratiquer après, c'est comme tout. Pour avoir le meilleur prof de tennis, si vous ne pratiquez pas après, vous allez rapidement perdre votre coup droit et votre revers. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée que une fois que vous avez ces 10 modules en poche, vous avez vraiment des bases très solides. Alors après, évidemment, on peut toujours améliorer et aller plus loin. Mais il y a quelque chose qu'il faut souligner aussi, et je mets une pierre dans le jardin de notre profession, nous journalistes, c'est qu'il y a souvent l'illusion parmi les journalistes, et j'inclus des journalistes à l'AFP, hein, c'est pas pour pointer du doigt les autres rédactions, il y a quand même souvent l'illusion de dire je connais le numérique. Et en fait, c'est faux. La plupart du temps, on connaît Twitter, on connaît un peu Facebook, on a un petit compte Insta, etc. Mais en fait, on connaît pas. Et on se rend compte que nous, le premier module qu'on a, qui est faire des recherches efficaces sur un moteur de recherche, rien que ça, les gens nous disent après, ah ouais, en fait, je ne savais pas chercher sur Google. Voilà.
Parce que c'est-à-dire d'utiliser des guillemets, le symbole plus, voilà, site de point, etc.
Absolument. Où vous avez ce qu'on appelle des opérateurs de recherche avancée, qui fait que, par exemple, vous pouvez chercher sur un site donné, et sur un site donné, vous pouvez chercher un seul type de fichier. Par exemple, vous êtes sur le site d'une institution qui communique beaucoup, ça peut être intéressant de ressortir, si vous cherchez de la data, que les fichiers .xls ou que les fichiers .pdf. Enfin, voilà. C'est des choses où vous pouvez ressortir les résultats dans une seule langue. Quand c'est noyé, si vous mettez un nom propre et que c'est noyé avec du français, de l'anglais, de l'espagnol, etc. C'est rien que ces choses-là, qui pour les spécialistes d'Internet, c'est la base, mais beaucoup, beaucoup de gens ne le savent pas. Donc nous, on montre ça et les retours sont extrêmement positifs en se disant « ouais, en fait, j'étais passé à côté de quelque chose, donc maintenant je sais que ça existe ».
C'est-à-dire que ça pourrait même être bénéfique pour vos journalistes au sein de l'AFP, c'est ce que vous êtes en train de me dire.
Absolument. Et évidemment, on les incite plus qu'ardemment à le faire. Et ça a été nos premiers bêta-testeurs, comme on dit. Et c'est ce qui nous a encouragés à continuer dans cette voie, parce que les retours étaient vraiment très positifs.
Sophie Nicholson, chaque module de cette formation gratuite en ligne proposée par l'AFP donne lieu à l'obtention d'un certificat. Quel est l'objectif derrière tout ça? Que les journalistes puissent faire valoir leur expérience auprès de leurs employeurs, peut-être?
Tout à fait. L'idée, c'est à la fois pour donner une motivation d'aller jusqu'au bout, parce que ce ne sont pas des modules, comme j'ai dit, pas très longs, mais en même temps, c'est quand même satisfaisant à la fin d'avoir un certificat pour vous-même. Mais l'idée, c'est aussi que ce certificat peut être partagé sur des réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter, et aussi pour montrer aux employeurs que vous avez fait la démarche pour aller un peu plus loin et pour, comme a dit Grégoire, c'est pas forcément pour devenir un pro, mais c'est pour montrer que vous avez avancé. Si vous avez fait les 10 modules, ça va jusqu'à un niveau assez haut et ça montre que vous avez une sorte de quelque chose en plus par rapport à d'autres gens qui n'ont pas forcément fait quelque chose, une sorte de formation en ligne qui est un peu... Pour moi, c'est un peu comme à l'école de journalisme. Quand moi, j'étais à l'école de journalisme, il y avait d'autres choses qu'on apprenait. Il y avait plein d'éléments, plein de choses qu'il fallait mettre ensemble pour faire un bon journaliste, une bonne journaliste. Et c'était à la fois, évidemment, c'est toujours les choses qui sont les mêmes qu'il faut avoir aujourd'hui, de savoir faire des recherches, vérifier des choses. Là, c'est les mêmes choses, mais en ligne. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est un peu... une nouvelle petite partie des formations essentielles pour tous les journalistes.
Sophie Nicholson, vous avez supervisé la création de la version anglophone de cette formation. Elle est pour l'instant disponible dans deux langues, le français et l'anglais. Deux autres langues vont être ajoutées prochainement, l'espagnol, le portugais. Il ne manquera plus que l'arabe et l'allemand pour qu'on ait les 6 langues de travail de l'AFP.
C'est vrai. Je ne sais pas si dans l'ordre ce serait dans ces langues-là, parce que comme dans la cellule d'investigation numérique, on travaille dans 24 langues. Donc même si les langues de l'AFP sont ces langues, on a aussi, on voit aussi surtout en hindi et en cantonais, mandarin par exemple, il y a aussi un attrait assez important. Là sur la plateforme en anglais actuellement, on a beaucoup de gens qui sont inscrits en Chine et à Hong Kong. Donc oui, je peux rien dire par rapport aux futures langues, à part le portugais qui va venir pour les élections au Brésil cette année.
Grégoire Lemarchand, ce programme de formation proposé par l'AFP est soutenu par la Google News Initiative. Google, par l'intermédiaire de ce projet ou de sa fondation DNI, Digital News Initiative, c'est un partenaire de choix des médias. En quoi est-ce important pour l'AFP de travailler sur certains projets avec Google?
Ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce projet, c'est nous qui l'avons proposé à Google. Encore une fois, c'est ce qu'on disait au début, une forte demande de formation et l'idée, encore une fois, de se dire, nous on a cette expertise, on n'est pas les seuls dans le monde, attention, hein, mais en tout cas on a cette expertise, on a ce multilinguisme, on a cette présence mondiale qui nous donne en tout cas des arguments forts. Effectivement, Google News Initiative de son côté, entend financer des projets innovants, comme on dit, structurants, etc. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui les séduit, et ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'on fait ce travail en totale indépendance, c'est-à-dire que, évidemment, on tient au courant de la façon dont ça se passe, mais Sophie, qui gère l'ensemble du projet, peut en témoigner. Il n'y a pas de pression. Et lorsque les fact-checkers, effectivement, utilisent beaucoup les outils Google, on ne va pas se raconter de bêtises, mais utilisent d'autres outils qui n'ont rien à voir. Évidemment, on en parle. Il n'y a pas de cahier des charges. Le cahier des charges avec eux, c'est de faire les formations les plus pertinentes possibles. Après, faire ces formations, ça prend du temps. Il faut les faire, il faut les relire, il faut les re-relire, il faut les re-re-relire, parce que quand vous les ouvrez au monde entier, il faut vraiment être à la virgule près. Et puis, mais Sophie pourra en dire un mot après, il y a vraiment l'idée ensuite de décliner, d'en faire d'autres, de faire des vidéos. Enfin voilà, tout ça mobilise du temps et des ressources, et c'est pour ça qu'un partenariat avec la Google News Initiative, elle est bienvenue.
Sophie Nicholson, justement, c'est une plateforme qui se veut évolutive. L'idée, c'est que, il faut donner des exemples et mettre à jour ces exemples, faire des vidéos à la page, parce qu'on est sur un sujet, sur un objet, sur des thématiques qui sont totalement mouvantes.
Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on était super contents de pouvoir finalement créer quelque chose en ligne. On commence à avoir une petite expertise, à créer des formations. Et on écoute, parce qu'on a quand même plus de 2000 personnes qui sont déjà sur la plateforme, donc on a pas mal de retours qu'on souhaite d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui déjà suggèrent des choses qu'ils aimeraient voir. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien voir plus d'exercices. Donc ça, on compte faire, c'est clair que c'est, comme a dit Grégoire, c'est essentiel de pratiquer. L'idée d'avoir une formation en ligne, c'était de pouvoir donner justement cette possibilité aux journalistes qui sont très occupés de trouver un moment dans leur journée quand ils ont un petit peu de temps pour pratiquer, d'avoir un peu plus de confiance et de pouvoir appliquer ce qu'ils apprennent dans la formation, dans la vie de tous les jours de journalistes. Donc oui, tout à fait. On a beaucoup d'idées. C'est juste, on va prendre le temps de faire des priorités et c'est sûr qu'on va mettre plus de formations sur cette plateforme dans l'avenir.
Grégoire Lemarchand, on le rappelle, cette formation de l'AFP est destinée aux journalistes et aux étudiants en journalisme, mais on se rend compte qu'il y a un certain nombre de savoir-faire qui serait bien d'être acquis aussi par le grand public.
Alors, l'AFP, c'est une agence de presse et c'est vrai que nos premiers clients, les gens qui s'adressent, c'est vraiment des professionnels, c'est-à-dire des professionnels des médias. Donc ces formations, c'est la même chose. Elles sont vraiment destinées à des journalistes, à des étudiants en journalisme et j'allais dire pour bien les pratiquer, pour bien les appréhender, pour pas être parfois en butte à certains problèmes, faut vraiment avoir des connaissances de base dans le journalisme. Après, on a décidé de laisser la plateforme ouverte et après les choses évolueront peut-être, notamment vers l'éducation aux médias, etc. Mais voilà, que le message soit clair, pour le moment, on s'adresse pour le moment à des journalistes et des étudiants en journalisme.
On rappelle donc l'adresse de cette plateforme, c'est fr.digitalcourses.afp.com. Merci Grégoire Lemarchand.
Merci beaucoup Steven.
Merci Sophie Nicholson.
Merci beaucoup.
RFI.
Après Grégoire Lemarchand et Sophie Nicholson de la rédaction chef Investigation numérique de l'AFP, on va clore cette émission avec Mondoblog Audio. Réécoutons le mondoblogueur camerounais Ecclésiaste De Djuy qui a décidé de participer à une formation sur le fact-checking. Et visiblement, il a appris plein de choses.
Aujourd'hui, à l'ère du numérique, les informations sont partout. Sur les sites, sur les réseaux sociaux, sur les blogs. On ne sait même plus où donner de la tête avec l'information. L'ère du net, c'est aussi l'ère des rumeurs, des systèmes de croyances, du complotisme, de la propagande, bref, des fake news et de la désinformation. Difficile donc, dans ce contexte, de distinguer la vraie information, celle qui est vérifiée et fiable, de la fausse information, celle qui est manipulée et mensongère. Parce que croyez-moi ou pas, mais rien ne ressemble plus à une vraie information qu'une fausse information. J'ai donc décidé de participer à un atelier sur la vérification de l'information, autrement dit sur le fact-checking. Avec le fact-checking, on vérifie toutes les informations. L'exactitude des faits, des citations, des dates, des chiffres, des affirmations faites par les personnalités, des photos ou des vidéos qui pullulent sur le net. J'ai retenu qu'il y a des manipulateurs qui diffusent de fausses informations de façon intentionnelle dans le seul but de déstabiliser et de diviser l'opinion publique. Ils veulent faire croire à une autre réalité et réorientent ainsi le débat public à leur sauce. J'ai retenu que nous ne devons pas nous fier uniquement à nos yeux et à nos oreilles parce que les désinformateurs sont capables de brouiller la vérité en manipulant l'information. Ils peuvent faire mentir une déclaration, traficoter des enregistrements audio ou vidéo, décontextualiser une illustration photo. Avec eux, le danger, c'est que le faux a l'air d'être vrai. J'ai retenu que nous ne devons pas partager aveuglément les infos qui sont sur nos écrans. Sinon, en les partageant, on participe nous-mêmes à la diffusion des fausses informations. Nous sommes donc chacun responsable de la limitation des fake news. Soyez donc attentifs aux fake news. Soyez critiques. Ne vous faites pas manipuler par vos émotions. Arrêtez de vous laisser abuser par les discours émotionnels ou démagogiques. Bref, ne laissez pas vos yeux et vos oreilles vous mener par le bout de votre nez.
Mondoblog.org.
Vous qui m'écoutez à la radio ou en podcast, vous avez un rôle à jouer contre la diffusion des infox. C'est ce qu'il faut retenir de ce que vient de dire Ecclésiaste Dejuy, mon blogueur camerounais. Alors s'il vous plaît, soyons vigilants ensemble face à toutes les fausses informations qui circulent sur les réseaux. Plus de 100 Mondoblog audio comme celui-là sont disponibles à l'écoute sur mondoblog.org. C'est la fin de cette émission réalisée par Simon Decreuse. Si vous aimez l'Atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast chaque samedi avant même qu'il soit diffusé sur RFI. Abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast ou encore l'appli Radio France pour ne rater aucun épisode. Notez cette émission et commentez-la sur les plateformes d'écoute pour donner envie à tout le monde de rejoindre notre communauté d'auditeurs. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse atelier@rfi.fr ou un message via Twitter. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.